De retour à l'émission, on a des choses à dire. Une présentation de Luciedel Parizeau cabinet d'assurance, Yannick Caisse, courtier immobilier Via Capital et le magazine Contact Affaires.
On va maintenant s'attaquer à un autre problème social important, parce que, bon, là, on parlait de ce qui se passe à Ottawa. On va déménager l'Opénat vers Québec pour, en fait, surtout, mon Dieu, jeter un regard sur l'impact que ça a partout dans le Québec, y compris chez nous, c'est-à-dire la rémunération du travail des gens au communautaire. Jean-François Daigle, de la Corporation du développement communautaire, de Pierre de Sorel est avec nous. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
On a vu, bon, je le disais en début d'émission, on a vu un peu de manifestation dans le coin, mais on reçoit des communiqués, on reçoit presque quotidiennement d'ailleurs de l'information là-dessus depuis quelques temps, que ce soit par la TROC ou par l'agence de presse qui nous envoie des communiqués qui traitent du sujet. C'est assez frappant de voir l'inégalité, l'iniquité de quand on regarde le traitement. Dans le communiqué que j'ai devant les yeux, ici on parle du salaire moyen d'une travailleuse communautaire se situe aux alentours de 18,54 $ de l'heure, tandis que les gens du côté de Québec, l'Institut de la statistique, parlent de la fonction publique, à travers de la fonction publique, la rémunération moyenne en 2014 était de 32,50 $. Alors on sait très bien qu'ils ont eu des bonifications depuis. Comment on explique ça? Est-ce qu'on peut expliquer ça par un travail totalement différent? Non.
Le travail est différent. Les organismes communautaires ont
moins de valeur?
Mais il n'y a pas le moins de valeur. Ouais, c'est là que je voulais en venir. C'est que le travail, oui, est différent parce qu'on n'a pas des services institutionnels qui est centré sur le règlement d'un problème particulier, mais plutôt d'une façon de travailler en globalité avec la personne. Donc, on va intervenir différemment. Le secteur communautaire a une action qui, selon moi, est aussi importante que le réseau public, parce qu'on va agir souvent en prévention pour pas que les problèmes se dégradent, mais aussi par après, un coup que le problème a été adressé, que la personne a été prise en charge par le système. Par la suite, sa qualité de vie est maintenue dans le communautaire.
Vous allez souvent régler des problèmes causés par l'intervention du système dans certaines parties de la communauté. Vous adressez aux jeunes, on parle des 17 ans et moins, des familles qui englobent ces jeunes-là, les aînés, l'éducation, vous agissez là-dedans aussi. Il y a plein de domaines dans lesquels des gens du communautaire interviennent quotidiennement sur le terrain chaque jour. Mais qui sont pas. Quels sont les.
Les organismes communautaires interviennent dans tous les secteurs de la vie, touchent toutes les couches de la population, et ça représente au Québec environ 4000 organismes communautaires qui sont dans plusieurs secteurs. On entend parler plus intensément des iniquités au niveau du financement des organismes communautaires parce que, oui, il y a le salaire, mais il n'y a pas simplement le salaire, il y a l'ensemble de l'action qui est sous-financée. Et il y a aussi le non-respect de la politique gouvernementale. Puis, je vais être bref parce que je ne veux pas perdre les gens, mais depuis 2001, il y a une politique qui a été adoptée au Québec et qui reconnaît les organismes communautaires comme une contribution essentielle à l'exercice de la citoyenneté et de la lutte à la pauvreté. Malheureusement, cette politique-là est très très mal appliquée, très inégalement selon la compréhension des ministères, bien qu'il y ait un cadre de référence. Et pour le financement, c'est pas tous les organismes qui ont un financement de base. Donc, le financement de base, ça paie les locaux, la mission des organismes.
Les outils dont vous pouvez avoir besoin pour la réaliser, que ce soit le transport par automobile ou de l'informatique ou les équipements de bureau. Qu'est-ce qui a changé? Depuis quand? Puis en quoi le ministère de la santé actuel, M. Barrette entre autres, qu'est-ce qu'il fait de si différent qui affecte encore plus le problème là?
Je viens de parler du financement à la mission globale, qui était le principe de financement qui devait être reconnu à la base dans la politique. Maintenant, la vision est beaucoup plus d'aller vers des contrats de services. Donc, on achète des services aux organismes communautaires et on reconnaît plus leur mission globale. Tout à l'heure, je vous disais qu'on travaille sur tous les aspects de la personne et non être centré simplement sur un aspect de la problématique vécue. Quand on va en entendre de service, on est dans une logique d'intervenir plus spécifiquement juste sur une partie de la problématique que la personne a vécue et c'est négocié avec des cibles à atteindre. Donc là, on se rapproche véritablement d'une logique institutionnelle, mais pas avec les moyens de l'institution.
Donc, ça fragilise un petit peu l'existence de ces services-là. Étant donné qu'il y allait par contrat puis par problème spécifique, ça dénature. Ouais.
Ça les dénature carrément, puis ça fragilise l'essence des organisations communautaires. Ouais. Puis ça vient encore aggraver l'injustice sociale amenée par des écarts de richesse importants. Il faut savoir, on travaille dans notre région, entre autres, on travaille avec 42% de personnes à faible revenu, 25% qui sont avec des revenus moyens. Si on ne nous donne pas les moyens de bien les soutenir, on vient juste encore augmenter les détresses qui peuvent être vécues.
Justement, on parle de la région. Tantôt, vous disiez qu'il y avait 4000 organismes communautaires au Québec. Ici, dans la région, on en compte combien?
Environ 70.
De toute tendance?
Qui vont toucher l'ensemble des secteurs. L'intervention, ça va de l'éducation, de la culture, l'environnement, la défense de droits, les groupes en santé, services sociaux, je ne sais pas si j'ai des mains, employabilité.
Oui.
Puis on touche les personnes aînées, les jeunes, la famille.
Et puis il y a un impact économique à tout ça. D'ailleurs, vous venez de publier une étude qui démontre justement l'importance de l'impact économique des organismes communautaires. Vous pouvez nous en parler?
Le secteur communautaire dans la région représente 20 millions au total de masse de revenus.
Ce que ça coûterait si on n'avait pas vos services, c'est 20 millions et demi, là, un peu plus de 20 millions et demi.
Ça, c'est ce qu'il y a présentement dans la globalité, c'est les salaires des employés de 70 organismes, c'est plus de 300 travailleurs. Dans la région, il y a 5 000 organismes achètent pour 5 millions et il y en a 3,8 qui est d'achat local. Donc, c'est une présence quand même importante. Puis là, on parle d'environ 300 employés, parfois un peu plus, mais il faut ajouter à cela 2000 bénévoles qui donnent 116 000 heures de bénévolat par année.
Ah, ben oui.
Ça représente 1,3 million si on le calcule au salaire minimum. Donc,
c'est fort comme présence dans notre milieu. Est-ce que ça ressemble à ce qui se passe dans d'autres milieux ou c'est plus ou moins important?
C'est très différent d'un milieu à l'autre.
Mais je pense que la crise est globalement répandue partout en province, parce que l'information que je reçois régulièrement m'indique que c'est toutes les régions qui sont en crise de ce côté-là, qui ont peur de cette fragilité, de cette précarité que ça impose, parce que là, vous réglez les problèmes par un contrat, comme M. Barrette vous le voudrait. Et après ça, ben vous faites quoi? Si vous avez trop bien fait votre job, vous allez couper un peu plus, on fera pas affaire avec vous?
En fait,
c'est un peu cette philosophie-là qui l'amène?
C'est que ça fait des années qu'il y a plusieurs organismes communautaires qui ont eu aucun rehaussement de leur financement.
En plus.
Ce que ça veut dire, c'est qu'on est obligé de couper dans les services et les activités qui sont données annuellement. Dans les faits, à part le secteur de la santé et des services sociaux, c'est les seuls qui ont une indexation qui est conventionnée avec leur ministère. Tous les autres, ça va à la discrétion du Conseil du Trésor. Donc, des fois, il n'y a pas d'augmentation. Comme je peux donner l'exemple de la Corporation de développement communautaire.
Ouais.
Depuis, ça fait 10 ans qu'on n'a eu aucun rehaussement.
Et qu'est-ce qui peut être fait? Comment ça peut changer tout ça? On passe encore à la prochaine élection, là? Ou alors, s'il y a des choses que les gens peuvent faire, des gestes qu'on peut poser pour faire changer les choses?
Bien, continuer à signifier que les organismes communautaires sont importants, qui sont présents dans les vies de tous les gens. Ici, c'est une personne sur 5 quand même dans notre milieu qui est touchée. Au Québec, c'est énormément de personnes aussi. C'est des services aussi importants que l'éducation ou la santé. Donc, c'est de signifier à nos élus, à chacun de nos députés, que c'est important de soutenir les organisations communautaires et de les soutenir d'abord par un financement à la mission globale et par la suite, les autres modalités, ils peuvent être négociés, mais c'est pas l'essence des organismes communautaires qu'on travaille d'une façon globale puis dans une perspective de justice sociale.
On va souhaiter la meilleure des chances pour que ça évolue dans le bon sens. On va se souhaiter la meilleure des chances parce que c'est collectivement qu'on a besoin de que ça soit plus en santé, ce milieu-là, pour que les services soient rendus. Jean-François Daigle, merci beaucoup d'être passé nous voir.
Ouais. Merci pour l'invitation.
Bonne chance pour la suite. On s'arrête le temps d'une pause. De l'autre côté, on rejoint notre collaborateur de la semaine. À l'international, il y a plein de choses à dire. On va entre autres revenir sur les voyages de notre cher premier ministre Justin Trudeau avec ses déguisements et surtout ses gaffes diplomatiques envers le peuple sikh, entre autres, et les Indiens. On en reparle avec notre collaborateur Hubert Vallée après ceci.